Salut.
Bonjour.
Donc c'est la façade, c'est quand on est arrivé. Donc ça fait le bâtiment, ça faisait 2 ans qu'il était vide. Il appartient à une entreprise qui gère le patrimoine immobilier de l'Église catholique. Et donc on faisait rien depuis plus de 2 ans. Ça faisait même plus de 6 mois que personne n'y était rentré, que le courrier n'est pas ouvert, rien du tout. Donc en fait on a pris la décision de s'en servir nous, vu qu'on avait un besoin, voilà, et des envies.
Est-ce que tu peux nous faire visiter?
Ouais. Alors là, donc, la porte d'entrée qui nous emmène dans un hall.
C'est un produit, j'ai pas envie de consommer en masse et en masse.
Pardon.
Au revoir.
Du coup,
Alors un hall où à droite, on stocke nos déchets et en essayant de faire un tri sélectif et tout ça pour mettre en pratique nos idées politiques. À gauche, en rentrant... les matos de la récup, puisqu'on pratique en fait la récup, on va au marché à la fin du marché et on récupère tous les fruits et légumes que jettent les différents commerçants. Et on a plutôt un bon réseau avec les gens qui font le marché, parce qu'on s'entend super bien avec eux, on est là-bas tous les jours. Et voilà, on bouffe quasiment que des légumes, même que des légumes qui viennent du marché, qui allaient être jetés et donc qui sont issus de la surproduction. Voilà, ce qui permet de ne pas les jeter. Là à droite, on arrive dans la cuisine. La cuisine qui est une pièce semi-collective, semi-privée, on ne sait pas encore trop quel statut on va mettre là-dessus. Ou qui est donc la salle à manger avec le gaz, on a pas l'eau courante, mais on a l'électricité. Et je sais pas trop quoi dire de sur cette pièce. Elle nous sert aussi pas mal pour nous organiser. On a des panneaux où on marque s'il y a des choses à faire, s'il y a du matos à récupérer, tout ça.
Ah, ils sont sortis.
Ouais, c'est bon. Les escaliers rouges magnifiques, on se croirait sur les marches de Cannes. Donc ça, c'est l'escalier intermédiaire qui délimite un peu les deux parties, parce qu'en fait, il y a une partie qui est privée, vu qu'ici, c'est un squat d'habitation. Il y a des gens qui y habitent. Il y a un collectif d'habitants. Et une autre salle qui est une salle d'activité qui sera ouverte au public et à toutes les personnes qui ont des envies de faire qui ont des projets. Genre, on a déjà un atelier de couture, un magasin de fringues gratuit. Et autre chose que des fringues aussi, une bibliothèque autogérée, un atelier de bricolage, et on espère plein d'autres choses encore. Donc cet escalier est fermé aujourd'hui, vu qu'on a invité plein de gens et qu'on voulait pas que la chambre, en fait, c'est notre seule partie d'intimité. Donc on voulait pas que nos affaires soient accessibles ou quoi, il y a trop de squats où on s'est fait chourer des trucs et tout. Donc là en fait on essaye de prendre les devants et de faire attention à tout ça. Là, donc, un énorme cours. Au cadastre, c'est 1400 m² de terrain. Il y a un terrain de basket, un terrain de pétanque, où il y a des gens du quartier qui viennent jouer de temps en temps. Mais pour le moment, enfin, ils sont venus hier, ils n'avaient pas l'air d'être super... Enfin, c'était plutôt hostile avec nous. Genre, ils avaient dû discuter avec les curés avant, qui avaient dû leur dire qu'on était des méchants, ou je sais pas quoi. Il y a, donc là, toute la cour sert pour pisser et tout ça, mais on a des chiottes sèches, puisqu'en fait, vu qu'on n'a pas l'eau courante, on fonctionne avec des chiottes sèches, c'est-à-dire que on récupère notre merde pour en faire du compost et éventuellement un jardin à l'avenir. Voilà, vu que c'est un peu une aberration de chier dans de l'eau potable. Et donc là, voici l'ancien théâtre, les théâtres à suivre. C'est une grande pièce qui doit faire 250 mètres carrés, quelque chose comme ça, avec une scène. Sur la gauche, quand on rentre, un salon qui est un peu la pièce fumeur. En fait, on a essayé de délimiter, de faire que les gens ne fument que dans le salon, que dans la pièce d'activité. Donc il y a un petit salon pour se poser ici. Des endroits où on stocke du matos, tout un tas de choses pour bricoler, vu qu'on essaye de tout faire par nous-mêmes. Ici, par exemple, on a monté l'électricité et tout ça. Enfin, on a remonté un circuit électrique. Aujourd'hui, c'est la journée d'ouverture, donc il y a une grande table avec plein de bouffe pour tout le monde, et que des gens ont importé, que nous on a fait, tout ça. Donc le lieu se veut autogéré, donc on a essayé de mettre en pratique concrètement et d'impliquer les gens dans nos pratiques, c'est-à-dire que les gens qui veulent boire un verre et tout ça, ben après ils lavent eux-mêmes leur verre. On n'est pas des gentils organisateurs du Club Med qui allons laver le verre des gens. Là pareil, on stocke du matos. Donc ici notre super zone de gratuité où on essaye de mettre en avant la récupération, de se battre contre la... tout ce qui est gaspillage, toutes les fringues qu'on laisse dans nos placards. Et, par exemple, si vous avez une chemise dans le fond de votre tiroir en bas à droite qui sert jamais et que vous n'avez pas porté depuis 73, le mariage de votre belle-sœur, vous pouvez venir la porter ici et peut-être que vous trouverez le pull qui vous manquait ou le pantalon dont vous aviez besoin pour paraître toujours plus classe en jeune cadre dynamique. Sous la scène, pour le moment, c'est fermé, mais on va y faire une zone de couture et tout, parce qu'on est plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui sont motivées pour faire de la couture et faire des déguisements, faire des fringues. On a pas mal de matos, donc voilà. Là, pour le moment, c'est assez sommaire parce qu'on n'a pas ramené de prise électrique, mais on va faire un lieu avec un accès libre et gratuit à Internet et une sorte de. On est lié au collectif Indymedia, enfin il y a plusieurs personnes qui sont liées au collectif Indymedia, donc faire une sorte de salon multimédia où on va produire où on aura du matos en logiciel libre pour produire produire de l'information, ce genre de choses. On diffuse aussi des brochures et des livres à prix libre, c'est-à-dire les gens donnent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Et c'est des brochures souvent de lutte politique, des récits, par exemple des combats éco-warriors en Angleterre ou des questions entre les hommes et les femmes, la répartition des rôles dans la discussion, tout ça. La scène est non-fumeur aussi. La salle, en fait, il n'y a que la salle du bas, le bas de la salle qui est fumeur ou fumeuse. Et au fond, les loges vont nous servir de sleeping pour accueillir nos nombreux amis non-habitantes.
L'occupation du théâtre abandonné, 4 rue du Colonel Boutin, n'est pas due à une nécessité, mais résulte d'un choix. Les promoteurs et gros propriétaires, dans le but de spéculer, laissent de nombreux bâtiments vides à Nantes. Ce théâtre, propriété de l'Église, premier propriétaire immobilier de France, en fait les frais depuis 2 ans. La loi est du côté des riches, ce qui rend notre occupation illégale. Néanmoins, nous estimons légitime d'occuper, d'habiter et de faire revivre ce bâtiment. Cette pratique, associée à l'échange et à la gratuité, est pour nous une façon de résister, dans un monde où tout s'achète si l'on en a les moyens. Les savoirs et savoir-faire, le vivant, les journalistes, l'eau, le temps, etc. Pour vivre cela, nous tentons de fabriquer, réparer par nous-mêmes, en fonction de nos besoins, et nous récupérons des produits et matériaux issus de la surproduction. Ainsi, nous entamons une désertion du système de surconsommation et d'esclavage salarié, rendu possible par la mise en commun de nos biens et de nos savoirs au sein d'un projet collectif. Celui-ci implique de nous organiser de manière égalitaire entre individus, en particulier dans les rapports hommes-femmes et dans la répartition des tâches, bricolage, ménage, informatique, etc. Ce projet est ouvert. S'y impliquer est une façon d'imaginer, de commencer à construire d'autres mondes sur des bases de gestion collective non hiérarchisées, où chacun et chacune prend part à toutes les décisions. Nous ne réclamons pas un autre monde aux institutions et pouvoirs en place, ni aux suivants. Nous, et d'autres ailleurs, le créons. Non mais...
En fait, on voulait commencer par ce texte. Enfin, moi, je voulais commencer par ce texte parce que c'est quelque chose qu'on a fait ensemble, tous les habitants et les habitantes. Et donc, de là, pour présenter le projet collectif, vu que c'est un texte qu'on a écrit collectivement, c'était la meilleure manière, je pense, de présenter notre projet. Puisque maintenant, ce qu'on va dire, on va sûrement le dire en tant qu'individu plus qu'en tant que collectif, vu que tous les habitants et les habitantes ne sont pas là.
Alors, la question, elle est simple, mais directe. C'est quoi occuper un squat? Enfin, faire un squat? Un squat, est-ce qu'il y a une définition précise ou en tout cas la vôtre?
La définition retenue par l'Académie française est la suivante. C'est un lieu occupé sans droit ni titre. C'est-à-dire, c'est illégal, on ne demande pas l'avis du propriétaire, il le laisse à l'abandon depuis longtemps. On arrive, on rentre, et on en fait quelque chose, on le fait revivre. Voilà, en gros. Donc c'est... Après, effectivement, c'est une définition bien éloignée du cliché, du préjugé négatif qui tourne dans les têtes de la plupart de nos concitoyens et concitoyennes qui imaginent, quand on leur dit le mot « squat », un espèce de hangar dégueulasse avec des junkies vautrés au milieu de leur propre merde. Ici, ce n'est pas exactement ça, voire pas du tout, en fait. En fait, comme on l'expliquait, le besoin de cette occupation résulte de l'envie de mener des projets et donc du besoin d'espace, au-delà des choix de vie individuels. Mais c'est aussi un acte politique fort de remise en cause de la propriété privée. Dans ce monde, il y a différentes définitions de la propriété. Il y a la propriété d'usage, qui est de dire que des biens appartiennent aux personnes qui en ont besoin ou qui les utilisent. Il y a la propriété qui donne le droit de gagner de l'argent dessus, même si on ne s'en sert pas. C'est la propriété privée. Nous, on revendique ici la propriété d'usage, c'est-à-dire qu'on refuse aux gros propriétaires, qu'on peut communément appeler bourgeois, le droit de faire du profit sur des bâtiments, sur du capital, sur de la richesse accumulée. On leur refuse ce droit et on s'approprie ces locaux, ces biens matériels, parce que nous, on en a besoin. Et donc c'est un acte politique.
Et que eux, on n'en a pas besoin, puisqu'ils n'en font rien. Ce bâtiment, ça faisait 2 ans qu'il était laissé à l'abandon. Quand on est rentré dedans, c'était affreux, quoi. Il y avait rien. Personne n'était rentré dans le théâtre depuis 2 ans. C'était plein de poussière. Et c'était hyper crade. C'était laissé en train de moisir et tout ça. Nous, depuis qu'on est rentré, on a fait énormément de travaux. Et le bâtiment, je pense qu'il est en nettement meilleur état depuis qu'on est là.
Enfin, ça reste des travaux de briques et de broc. Enfin, on fait de la récupération. Tous ces travaux, ils sont faits avec de la moquette qu'on a trouvée dans des poubelles. Même la peinture, on l'a trouvée dans les poubelles, et beaucoup d'énergie, en fait, surtout. Depuis qu'on est rentré, ça fait quelques semaines déjà, on a passé nos journées, en gros, à travailler pour refaire vivre un peu les locaux, avant de mener à bien des activités autres, à savoir des activités avec les gens du quartier ou avec les gens qui auraient envie de s'impliquer ici.
Et comment s'est fait le choix de ce lieu ?
Par élimination.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, pour ouvrir un squat, on va sur le site http://squat.net, SQUAT.net, et on télécharge le petit manuel qui s'appelle le squat de A à Z, qui explique fort bien comment faire des repérages, repérer des bâtiments vides, s'assurer de leur inutilisation, faire des choix stratégiques en termes de propriétaire du bâtiment, selon si on a envie de négocier avec des institutions ou d'avoir des procès avec des privés. Et au final, à choisir un lieu. C'est pas très concret, mais c'est la méthode de A à Z, comment faire pour ouvrir son propre squat. Mmh. Donc, je vous en... Allez-y.
Nous, si on peut dire... ce projet, c'est quelque chose qu'on a vraiment posé. On a pris du temps, beaucoup, avant d'ouvrir le lieu, pour discuter de qu'est-ce qu'on avait envie de faire ensemble. Et de là, on avait une idée, déjà, dans notre tête, de si on a des envies, par exemple, de faire une zone de gratuité, ça veut dire qu'on a besoin de place. Et de là, par exemple, on a vu des endroits, mais qui étaient beaucoup trop petits, où on n'aurait pas pu faire ça. Du coup, par élimination, cet endroit-là, c'était l'idéal pour nous.
Il s'agit d'un choix de vie, très clairement. J'avais l'opportunité d'avoir une vie complètement différente, fondée sur la réussite sociale et économique, devenir ingénieur, avoir plein de sous, un pavillon en banlieue avec une piscine, un chien, 2 gosses et une femme. J'ai fait, du moins pour l'instant, le choix opposé, c'est-à-dire ne pas me soumettre aux règles de ce monde et ne pas devenir un esclave salarié à la botte de mon patron, mais plutôt avoir mon temps pour moi, choisir les projets que j'ai envie de monter, et pour cela, la nécessité d'avoir un espace. Donc, devoir squatter, au final, est une nécessité qu'on a besoin de beaucoup d'espace pour monter des projets, mais au tout départ, il s'agit d'un choix de vie, en fait.
Et pour les autres ?
Ouais, moi, c'est un choix aussi, en fait. Depuis 2 ans... J'ai quasiment pas travaillé ou travaillé très peu, gagné suffisamment d'argent pour avoir le temps de réfléchir. J'étais étudiant sans aller vraiment à la fac et donc j'ai eu beaucoup de temps pour moi qui m'a permis, entre autres, de développer cette réflexion sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel doit être mon choix de vie, est-ce que j'ai envie de travailler, est-ce que j'ai pas envie de travailler, ou bien est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent ou pas, comment j'avais envie de diriger un peu ma vie, est-ce que je pouvais reprendre le contrôle de ma vie aussi simplement. Du coup, de réflexion, en rencontre et en promenade, on en est arrivé, j'en suis arrivé en tout cas à rencontrer des gens avec qui on a monté ce projet-là. Voilà, moi c'est ma première ouverture, mon premier squat, première expérience donc.
Ouais, moi aussi c'est complètement un choix. C'est ma première ouverture de squat en tant qu'habitant, parce que j'ai participé à l'ouverture de squat autrement. Mais sinon, moi, je peux dire que je suis aussi étudiant et que, comme beaucoup d'étudiants, j'ai passé des soirées entières à refaire le monde et à se dire « Ah, vraiment, monde pourri et tout ça ». Et je crois que j'en avais marre, en fait, de parler et de pas agir. Et que là, c'est un moyen d'essayer d'être cohérent entre ce que je pense et ce que je fais, quoi.
En fait, appartient à l'évêché, à savoir non plutôt, l'association pour le développement des œuvres diocésaines de Loire-Atlantique.
À l'église, hein, en gros.
Oui, c'est la société offshore qui gère le patrimoine immobilier de l'église.
Voilà, en gros, oui. Et donc, tout ça, ça appartient, donc ce grand bâtiment, le théâtre, le grand terrain qui est derrière et 2 petits bâtiments à côté, appartiennent à l'église qui ne s'en servait pas depuis 2 ans, sauf des petits bâtiments de temps en temps comme ça qui servent à des joueurs de pétanque du quartier, de la paroisse, pardon. Il faut que je garde les bons termes. Et donc voilà, ce bâtiment n'a pas servi ici depuis plus de 2 ans.
Donc ça rentre concrètement dans... ce que vous expliquez
dans la définition.
Dans la définition. Voilà. Et justement, le choix de venir ici s'est fait comment ?
Mais en fait, genre juste pour revenir, le truc, c'est que l'église, c'est des gens, c'est des propriétaires immobiliers, mais c'est incroyable, quoi. Genre dans le quartier, c'est ils ont 1 bâtiment sur 10, enfin c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est énorme, tout ça. J'imagine pour des années de. Je ne sais plus comment ça s'appelait, quand les gens donnaient là pour aller au paradis. Enfin, à une époque, les gens, ils donnaient, quand ils étaient trop riches, ils donnaient à l'église pour aller au paradis. Ben voilà, ici, c'est ça, c'est un bâtiment qui doit venir de ça. Et ils sont tellement riches, l'église, qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils ont des bâtiments hyper bien dont ils pourraient se servir. Ce bâtiment-là, il est génial. Et voilà, ça faisait largement plus de 2 ans qu'ils en avaient, enfin qu'ils l'abandonnaient.
Donc nous, on est rentrés dedans et on en a repris l'usage. On lui redonne vie, donc... C'est notre, on revendique de la propriété d'usage de ce bâtiment.
Et quel a été justement le positionnement du propriétaire, à savoir l'église, par rapport à ça ? Qu'est-ce qui s'est passé directement ? Parce que si vous avez eu la visite de la police, c'est qu'il y a eu une plainte. Comment ça s'est passé ?
En fait, un certain jour dans la semaine, Vers midi, 13h, on entend frapper, c'est le curé de la paroisse, enfin, on a supposé, puisqu'il ne s'est pas présenté à nous, en fait, qui est venu avec une voiture de police. Donc il avait appelé la police le jour même, il est venu avec eux, il n'a pas essayé du tout de discuter avec nous, alors que nous, on était plutôt prêts à discuter avec lui qu'avec la police. La police nous a demandé de sortir, bon, chose qu'on n'a pas faite, évidemment, puisqu'on était chez nous, c'était notre domicile, notre résidence principale. Il faut savoir que si on occupe un bâtiment depuis plus de 48 heures, ça devient notre domicile. Donc légalement, personne ne peut nous demander d'en sortir, sauf en passant par le tribunal. Donc procédure judiciaire, personne ne peut nous demander nos papiers dedans, ils nous ont demandé nos identités, on ne leur a pas donné. Et ils ont fait le tour donc du terrain avec cette équipe de police, bon, entre autres quelques menaces des policiers... À savoir, ouais, il pourrait y avoir le feu sur ce bâtiment. C'était une menace, bon, voilà.
Non, c'était pas une menace.
C'était pas une menace, puisqu'il n'y avait pas de témoins, voilà, ouais.
Voilà ce que nous a répondu le policier.
Mm-hmm. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont méchants.
Attention. Hein. Et donc, ils sont repartis, comme ça, on pourrait dire, bredouille, ou brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. Et donc, ils sont revenus le soir vers 17h30, 17h, quelque chose comme ça. Donc, du coup, deux voitures, un camion de flic, police nationale, deux maîtres chiens.
La bave aux lèvres.
La bave aux lèvres.
Les maîtres, hein, pas les chiens.
Ouais. Des flashballs, les maîtres aussi. Hein, et des bombes lacrymo. Voilà, et ils sont venus, ils ont essayé de casser la première porte d'entrée, la porte d'entrée d'en bas, celle qui fait une super musique. Et après, les gens de la paroisse, ils ont fait rentrer sur le terrain. Et là, ils ont essayé de casser la porte de derrière. Ça ne marchait pas, parce qu'on avait suffisamment barricadé encore.
Ensuite,
on les a eus. Il nous en faut plus que ça, quand même. Et du coup, ils sont amusés à casser des carreaux, entre autres menaces. Ouais, vous sortez ou on vous sort, de toute façon, vous sortirez un jour... Et ben non, nous on sortait pas, on avait des articles de loi, on était en contact avec notre avocat, on a appelé la préfecture, on a appelé le commissariat de police, je pense que tu peux en parler, Poirot. Non, tu veux pas en parler.
Bon, on voulait juste vérifier que la police, tout à fait consciemment, était là pour faire régner, non pas la loi, enfin, mais l'ordre. Donc en gros, la police et les gens qui sont intervenus et leurs supérieurs hiérarchiques savaient pertinemment que ce qu'ils faisaient était illégal. Mais ils s'en foutent tout autant que nous, au final. Ils sont là pour défendre la propriété privée, pas pour appliquer la loi. Bon, ça simplifie le débat. Je suis pas là pour dire ni que c'est bien, ni que c'est pas bien. J'ai pas envie d'une police à visage humain. Je rêve pas d'une police qui fera respecter la loi bien proprement et qui respectera le citoyen. C'est juste pour dire que... faut arrêter de se voiler la face avec la façade démocratique, avec la police, le droit, l'État, le gouvernement, Au final, loi ou pas loi, si on fait un truc qui convient pas au système, on s'en prend plein la gueule.
Quand on laisse toute une après-midi sous l'eau, elle prend la flotte, elle s'affaisse d'autant plus.
Et là, le problème, ah ça y est, bon bah c'est bon.
Ok, c'est réglé.
Est-ce que aussi par rapport à Nantes, est-ce que vous sentiez-vous le besoin d'avoir un lieu comme ça? Parce que finalement, il n'y en avait pas avant. Quoi. C'est quand même une ville assez grande par rapport à d'autres villes où il y a déjà une culture squat, entre guillemets. Est-ce que aussi c'était une nécessité, enfin une nécessité pas forcément, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que c'est dans la suite des évolutions de vos parcours individuels et d'un parcours collectif, parce que vous connaissez et le fait d'ouvrir un squat, c'est aussi une démarche collective. Est-ce qu'il y avait une réflexion aussi par rapport à ça? Essayer de lancer une dynamique.
Oui, assez clairement. Enfin, assez clairement, souvent dans des villes où il n'y a pas eu de squat depuis longtemps, ou du moins pas de squat qui se revendiquent politique, qui veulent être ouverts sur des activités. Souvent dans ces villes-là, il suffit il y a un beau jour, il y a quelques zigotos qui fassent le pas, qui ouvrent un lieu, pour que des gens se disent « Ah ben oui, j'avais envie de faire tel projet, je vais aller le faire là ». Après, quand le lieu se fait expulser, ce qui est quand même généralement le destin d'un squat, les gens qui n'étaient pas les issus d'initiative, mais qui ont apporté des projets, se retrouvent sans lieu et se disent « Ah ben, il va peut-être devoir en ouvrir un ». Et c'est souvent comme ça que se lancent des dynamiques squat dans des villes. Au final, on crée un espèce d'appel d'air. Enfin, disons que ce lieu et l'ouverture à des projets extérieurs fait déjà se rendre compte à des gens qu'ils ont des envies, des projets, que pour cela ils ont besoin de place et que c'est certainement pas les technocrates au pouvoir qui vont les leur donner parce que ce n'est pas une priorité et c'est certainement pas l'église qui va les leur donner, donc ils devront le prendre sans demander l'avis de personne.
Et surtout que c'est possible, que c'est possible de le faire concrètement. C'est la preuve concrète que ça peut marcher. Enfin, c'est pas parfait, mais ça peut marcher. Alors que c'est vrai que si le squat, ça reste un truc vague dont on a entendu parler, qu'il y a l'autre bout de la France et tout ça, c'est moins dans le quotidien des gens, alors que là, s'ils ont la possibilité de s'impliquer dans ce projet, et que, ouais, que comme disait Poirot, ça devient quelque chose d'important dans leur vie, ben, du coup, quand ici on va se faire expulser, ce qui risque d'arriver vers le printemps, on l'espère, on espère que ça ne sera pas avant le printemps, peut-être que l'hiver prochain, il y a d'autres gens qui rouvriront des squats à Nantes. Et peut-être que là, il y en a un cet hiver, et que l'hiver prochain, il y en aura 5, et l'hiver d'après 15. Et...
Les pauvres, on les entasse. Les pauvres, on les entasse. On les entasse. On les entasse.
Cette histoire de fou, c'est quand quelqu'un parmi